Cachillon, le rendez-vous manga de Radio Campus Pau. Si toi aussi tu avais oublié l'existence de Naruzozo jusqu'à présent, tu es au bon endroit. Bienvenue sur Cachillon, le rendez-vous manga de Radio Campus Pau. Je suis Gaëtan et je suis accompagné de
Tristan et bonjour. Aujourd'hui on va parler donc de Chainsaw Man.
Eh oui, c'est la cinquième émission.
Exactement.
Et cinquième émission, on va fêter ça de la plus belle manière qui soit, en faisant notre beau joli focus sur Chainsaw Man pour fêter le retour, la partie 2.
Exactement.
Qui est arrivé chez nous le 5 avril. Pff, ça va être si bien. Ça va être dingue. Ça va être dingue. Mais avant, le petit point actu. Et après, comme d'habitude, on terminera avec le avez-vous déjà lu ? Est-ce qu'on est parti ?
Allez, moi je suis prêt.
Allez, go ! Et on enchaîne, pareil, avec grosse actu qualité. Pour les 10 ans de l'Attaque des Titans, Pika nous fait le plaisir de ressortir le tome 1 dans une édition anniversaire qui non seulement compte le tome, et ça fait plaisir.
Oui, il vaut mieux. Hein. Bonjour, voilà, on vous offre une jaquette.
Juste une super jaquette MDR. Et non content de retrouver le tome avec une couverture qui est dédiée à cette édition-là. On aura en plus le pilote de l'avant de l'Attaque des Titans. Normalement, il me semble qu'il y a des croquis préparatoires, enfin des dessins. Il y a pas mal de bonus, donc c'est une belle édition.
Beau travail.
Ouais, donc ça va ravir un peu les fans. Il me semble qu'il y a aussi un poly... Ah non, il y a la couverture qui va être gaufrée. Donc on va avoir du relief sur le Titan colossal. Enfin voilà, une belle édition si jamais vous vouliez commencer ou tout simplement... commencer l'Attaque des Titans ou rajouter un peu du stuff, voilà, votre collection est aiguë, parce qu'on sait que vous êtes fan.
Bah oui.
Donc ok, on le sait, on vous voit. Et voilà, et donc première petite actu mise en bouche sympathique.
Voilà, et puis après, l'arrivée aussi de Blue Giant Explorer, hein, ça toujours... On va vraiment en parler à chaque fois.
Ah, c'est clairement du lobbying, hein. Oui, les gars.
Vraiment, si c'était pas assez clair, lisez Blue Giant, on en parle tout le temps. Et donc là, on est sur la troisième partie.
Ouais, qu'on vous avait annoncé.
Voilà, et elle arrive.
Voilà.
Et voilà, ça fait toujours plaisir. C'est toujours pareil, hein. C'est toujours le plaisir de suivre et de retrouver Dai. Ouais, ça n'a pas de prix.
Voilà, pour la fin de son périple, normalement, il n'y aura pas de...
Normalement, on est sur le dernier arc. Et
on a hâte, hein.
Bah ouais, c'est la continuité, en fait. Maintenant, on est dans le canapé avec les pantoufles. Il n'y a plus de surprise.
Oui,
il est là, on va tout avoir et ça fait plaisir.
Et on sait que ça va être trop bien.
Exactement.
On est habitué.
Voilà, donc ouais, c'est juste... du plaisir.
Voilà, donc ça sera pour l'occasion de commencer Blue Giant, si jamais. Là, vous savez, là, il y a une perspective de fin.
Oui, c'est vrai.
Sachant que c'est toujours court, là, ça va être sûrement une dizaine de tomes encore.
Chaque arc, c'est une dizaine de tomes, donc on arrive à 30.
Ouais, ça fait une trentaine de tomes.
C'est ça.
À peu près 30-35, je pense.
Ouais.
Voilà.
Ouais, correct.
Ça va être l'occasion. La fin arrive. Et moi j'enchaîne avec l'arrivée alors d'un auteur pour le coup, si on fait du lobbying absolument pour Blue Giant depuis le début, hein, là un auteur qu'on n'a pas encore abordé et qui mérite absolument toute l'attention qu'on peut lui porter, c'est l'arrivée de Evil de Atsushi Kaneko chez Delcourton Cam. Donc Atsushi Kaneko qui a déjà été publié chez nous sur plusieurs œuvres, mais peut-être une de ses plus connues qui a le plus marqué, c'est Soil, qui est édité chez Ankama, qui avait lancé, je crois d'ailleurs, leur collection manga ou pas loin, enfin qui faisait partie des œuvres de début. D'ailleurs, Ankama qui compte dans son roster Radiante de Tony Valente, dont on t'en parlera, hein, c'est
oui.
Très clairement. Et alors, Soil, en fait, Atsushi Kaneko, on est sur un auteur avec un graphisme assez particulier, très très comics, très occidental. Et alors, Soil, ça nous parlait déjà, on était déjà sur un truc un peu décalé, un peu chelou. Où on est sur une ville, une espèce de banlieue, façon les banlieues américaines idylliques, où tout le monde il est gentil et tout le monde est beau, où on commence à voir des gens qui disparaissent, et une affaire absolument méga glauque.
Et là, tout le monde il est pas gentil, tout le monde il est pas beau.
Et voilà, et plus personne n'est gentil, plus personne n'est beau. Il y a un côté Twin Peaks un peu. Et voilà, on va suivre cette enquête là, et on va voir des trucs un peu sales, enfin pas mal de rebondissements et tout. Et voilà, enfin c'est Soil, c'est trop cool. Il avait fait Wet Moon aussi, qui est incroyable, mais plus trouvable, malheureusement. réédité Wet Moon SVP. Et donc là, il revient avec Evil, donc qui est bah, visiblement... ça va être une espèce d'ode aux super-héros, donc peut-être quelque chose un peu à la Invincible ou The Boys, quelque part, voire Watchmen, peut-être que...
Oui, donnez-nous un manga Watchmen.
Exactement. Donc,
pour plaisir.
Donc voilà, on, dans de très belles éditions, donc bah, on espère que ça va être cool. On a les deux premiers tomes qui arrivent le 12 avril, donc assez rapidement après avoir... Après avoir écouté ce podcast, si je suis bon sur les dates. Voilà, enfin, du plaisir, et ça va être notamment l'occasion pour vous, si vous ne connaissiez pas l'auteur qui est quand même pas si exposé que ça, de, bah, de tout simplement se confronter à son univers. Comble de la joie et de la hype, et c'est pour ça que du coup cette anecdote en cache deux, c'est que Atsushi Kaneko va être en dédicace à Bashi Buzuk le mardi 25 avril à partir de 15h. Alors les places sont réservées, faites attention. Alors là, au moment où on enregistre, je crois pas que ce soit complet. Donc voilà, dépêchez-vous parce que les places sont limitées et évidemment il va y avoir du monde. Et enfin voilà, on va avoir l'occasion de rencontrer l'auteur chez nous à Pau et ça va être un régal tout simplement. Merci à eux de nous offrir ça. En plus bon, d'être la famille, le vrai spot pour qui recherche le manga chez nous. Enfin voilà, c'est réjouissant. Atsushi Kaneko qui revient en France physiquement et avec sa nouvelle série, et en plus chez nous, chez Bashi. Voilà, ça régale.
Et dernière petite info, après, enfin, c'est toujours des petits choix, hein, mais là aujourd'hui je vous parle de Skip and Loafer qui arrive chez Nueve Graphics pour mon plus grand plaisir. Parce que oui, j'adore les tranches de vie. Donc là, on suit une ado qui part de sa campagne pour arriver dans la grande ville au lycée et se faire bah, des amis, vivre pleinement sa vie lycéenne. Alors, quoi d'original ? Et bah, pas grand-chose, mais c'est juste que tout est très bienveillant et on est de plus en plus sur des lignes éditoriales comme ça où vraiment on va reprendre les anciens tropes et ne pas faire des relations toxiques ou des trucs abusifs et du coup bah c'est cool parce que vraiment bah oui. on suit donc tout un petit groupe qui se forme et ils sont tous trop mignons. Ça fait plaisir en fait de voir bah, que on peut aussi avoir des comportements où on assume bah, ses conneries. En fait, c'est du très beau vivre ensemble.
Ouais. Voilà. C'est bien résumé.
Merci.
Puis vu que c'est Nueve Graphics, on aura sûrement une très belle édition. Oui. On aura peut-être les cartes Nueve Graphics à collectionner.
C'est plus trop sûr maintenant, mais ouais, même si elles y sont pas, c'est toujours au moins des très belles jaquettes, ouais. Très très agréables à prendre en main. Et voilà, ils régalent parce qu'ils commencent à avoir un vrai catalogue qui pèse.
Là, ils ont un vrai truc là.
Voilà.
Donc on a hâte.
Et avec ça en plus, voilà voilà.
Bah, parfait, les crèmes.
Voilà. Et donc on termine là-dessus pour nos recommandations. On va partir sur un petit interlude sur l'opening de Chainsaw Man, évidemment.
Hein. Bah oui, hein, vu que c'est.
On allait pas le faire maître. Autrement.
C'est clair.
Et voilà, à tout à l'heure.
De retour sur Radio Campus Pau, Donc ça y est, maintenant il est l'heure d'attaquer le plat principal.
Allez.
Qui pour une fois d'ailleurs n'est pas forcément une œuvre, enfin qui n'est sûrement pas d'ailleurs une œuvre que vous ne connaissez pas.
Oui,
que vous
avez... En parlant de plat principal, on va spoiler les gens qui se contentent de regarder l'animé.
Ah ouais.
Qui ne regardent que l'animé.
Déjà.
On va parler de la fin.
Ouais. De la première partie.
Oui, de la première partie, oui.
Là, on est que sur la première partie.
Voilà. Mais voilà, soyez prévenus. Alors, je suis la preuve qu'on peut lire les 11 premiers tomes très vite, vu que je les ai lus en une nuit la semaine dernière.
Allez.
Sur une énorme pulsion. Mais bon, j'étais pas très frais le lendemain, certes. Mais lisez-les si vous voulez pas vous faire spoil et revenez après.
Oui, c'est ça. Ouais, voilà. Faites attention. Par contre, si vous en foutez, bah.
Voilà, c'était le petit encart. Attention, mais, spoiler. Mais effectivement. Maintenant, on reprend des bisous.
Non, effectivement, parce que je pense que. Bah, déjà, c'est la première fois qu'on traite d'une œuvre aussi actuelle.
Oui.
Et, ce qui est excellent, comme quoi 5 émissions. Hein.
Oui.
Et en plus de ça, grosse hype, effectivement, par rapport à son animé. Donc là le spoiler alerte n'aura probablement jamais été aussi. Aussi important.
Ouais, surtout sur une œuvre. Où il y a vraiment une attente sur la fin et c'est. On peut pas se dire que Fujimoto va faire une fin, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Mmh. On sait qu'il va y avoir des grandes révélations,
ouais.
Ce qui est le cas. Du coup, il vaut mieux, si vous voulez la découvrir par vous-même, mettez en pause.
Voilà, faites attention. Enfin, deux ans, là, on va déballer à partir de maintenant.
Ouais.
Donc, on part du principe que soit vous vous en foutez, soit bah, vous l'avez lu et. Vous êtes absolument fan, normalement, parce qu'effectivement, c'est aussi, en plus de traiter de la série, enfin d'être la série la plus actuelle qu'on traite, on n'a jamais traité d'œuvre aussi avec autant de hype que ça.
Après,
et hype mérité.
Ça fonctionne toujours ensemble, généralement.
Oui, c'est clair.
C'est l'actualité qui fait la hype. Mm. Mais voilà, on est parti.
Mais ouais, alors effectivement, alors bah, petit préambule avant et après vraiment on attaque. Désolé, on va commencer un peu par on va attaquer avec un petit retour sur l'auteur. Mais en fait, Chainsaw Man, on est quand même sur une œuvre sur laquelle on pourrait quasiment faire la saison. Il y a beaucoup de choses à traiter. On peut le prendre sur plein d'angles. C'est une œuvre hyper riche, hyper généreuse. Donc nous, en fait, l'idée, c'est que on va surtout aborder ce qui se cache derrière les tronçonneuses, le sang, le gore et l'action. On va surtout se concentrer mais d'ailleurs probablement ce qui est la partie qu'on préfère tous les deux dans Chainsaw Man, c'est justement les relations entre personnages et les développements. Voilà, donc on va attaquer ça exactement en fait.
Parce que oui, c'est très beau, oui, c'est de la tension tout le temps, oui, il y a des rebondissements partout.
Mais on chiale.
Voilà. mais ouais, ce qui va vraiment faire le fil rouge de cette émission, parce que. Bon, je pense pas qu'on va se retenir de parler de moments importants. Mais voilà, ce qui va faire le fil rouge, ça va vraiment être la construction des personnages, où ils démarrent, comment ils évoluent et où ils arrivent.
C'est ça. Et pourquoi c'est bien.
Et voilà. Et pourquoi c'est un pur plaisir, encore une fois.
Pourquoi Fujimoto est trop fort. Et d'ailleurs, attaquons avec ce bon vieux. Donc Tatsuki Fujimoto, qui est l'auteur qui nous intéresse aujourd'hui, qui n'est pas en premier venu. Qui n'est pas arrivé récemment dans les éditions françaises. Ça fait déjà maintenant quelques années maintenant qu'on l'a eu avec déjà Kazé qui le publiait à l'époque, et maintenant Crunchyroll qui a clairement mis la main sur une mine absolue en termes de qualité, donc qui continue de l'éditer, donc avec qui est arrivé chez nous avec Fire Punch, qui était au final sa première vraie œuvre longue. Et qui déjà nous montrait à peu près toutes les qualités qu'avait l'auteur, qu'on retrouve sur Chainsaw Man, à savoir des personnages assez barrés, des concepts assez barrés, une espèce de spontanéité et une manière d'écrire très très particulière qu'on retrouve chez personne d'autre.
Il y a énormément de profondeur dans tout ce qui est déjà l'environnement et les personnages et tous les ricochets en fait qui vont arriver sur les actions. Qui sont toujours très très bien travaillés et pour moi qui aime beaucoup plus l'aspect scénaristique que visuel, c'est bonbon quoi.
C'est déjà un pur plaisir. Oui. Effectivement, il y a toutes les surprises aussi qu'on retrouvait déjà, les grandes refs au cinéma. Enfin, déjà en fait, Fire Punch était assez complet en arrivant pour une première ref. Enfin, il mettait déjà un peu la beigne à tout
moins, moins accessible. Pour le public plus jeune, par contre.
Ouais, justement, parce que c'est là en plus qu'il va y avoir un basculement, c'est que Fire Punch était édité dans un magazine seinen et il y avait tout à fait sa place.
Oui.
Et là, la grande surprise a été de voir que Chainsaw Man est arrivé chez nous en 2020, mémoire 2019 ou 2020, qu'il a été publié du coup dans le Weekly Shonen Jump. Donc on a One Piece, toutes vos séries de Neketsu, enfin toutes nos séries de Shonen Neketsu beaucoup plus lisses, ouais, plus agréables. On a Witch Watch par exemple et Chainsaw Man au milieu qui fait figure en fait déjà d'anomalie. C'est-à-dire qu'on a déjà un auteur assez particulier. Vous l'avez vu dans Chainsaw Man. Dites-vous que dans Fire Punch c'est peut-être pire. Enfin peut-être ou mieux selon, mais on va dire mieux.
C'est plus énervé. C'est,
ouais, en fait Chainsaw Man est plus énervé, mais Fire Punch c'était déjà, c'était peut-être plus barré, ça allait peut-être
oui,
plus
oui,
loin
oui,
dans
Fire Punch.
Des choses comme ça. Et à côté, alors on a eu ça en France, on a également eu aussi publié l'an dernier deux recueils de one shot sur ses premières années. Pareil, où on peut suivre l'évolution de l'auteur sur vraiment ses toutes premières histoires courtes. Où pareil, en fait, on peut très rapidement voir que dès le début, il ne voulait pas faire comme tout le monde. Alors ça, pour le coup, autant Fire Punch, c'est conseillé de ouf. Lisez Fire Punch. On va en reparler un jour, c'est sûr. Et comme probablement, on fera tous les Fujimoto.
C'est ça. Mais on met trop de. À chaque fois qu'on parle d'un manga, on dit qu'on va en parler un jour.
Mais là, c'est ça.
Là, ça fait une liste.
Et beaucoup. Et mais oui. En attendant, Fire Punch est un très bon candidat.
Tout à fait.
Et alors que ces premières anthologies, alors elles sont très très cool, hyper intéressantes, mais ça, c'est plus pour les fans. Ouais. On vous conseille absolument pas de commencer par là. Et après, bah, il a sorti là sur l'an dernier et en cela en début d'année, on en avait parlé dans un point actuel. Il a sorti deux one shot qui lui ont un peu ouvert les portes. Enfin, si Chainsaw Man en fait lui a ouvert les portes du succès mainstream entre guillemets, surtout avec son animé qui est arrivé en fin de saison dernière. Là, les deux one shot en fait coup sur coup l'ont ouvert en fait au cercle artistique plus haut, à la critique.
C'est ça.
Où en fait tout le monde s'est rendu compte que c'était le meilleur. C'est sûrement voilà. un des auteurs les plus intéressants actuels.
Les one-shots se posent là et vraiment c'est bluffant.
Ah ouais.
Tout ce qu'il arrive à traiter sur si peu de pages, c'est fou.
C'est abusé, ouais. Sans perdre sa profondeur et tout ça. Donc les one-shots, évidemment, pour vous les resituer, Look Back et à du RI. Et a priori, on va en avoir d'autres en plus des one-shots.
Et qu'il en fasse d'autres, avec grand plaisir.
Et voilà, donc là, c'était le petit tour d'horizon avant d'attaquer le monstre, la bête, qui finalement est la cinquième grosse actu, vu qu'on en parle. Enfin, évidemment, quel meilleur moment pour en parler que la sortie de la partie 2, qui est chez nous. Et donc, Chainsaw Man, petit résumé avant, pour bon, même si. On est entre normalement gens qui ont lu, mais on va faire un petit résumé histoire de se remettre dans l'idée. Enfin, vite fait un petit synopsis, est-ce que tu peux nous le faire?
Alors, donc Chainsaw Man, on est dans une réalité à peu près contemporaine, ouais, où les humains cohabitent plutôt de force que de gré avec des démons. Démons qui sont... qui tirent leur pouvoir en fait des craintes humaines. Donc on va avoir comme le titre l'indique, le démon de la tronçonneuse, mais on va avoir le démon des aiguilles, de vraiment toutes les craintes humaines plus ou moins fortes,
ouais.
Et donc dans ce monde on suit donc un adolescent qui a une vie nulle. Mais genre vraiment, vraiment très très nul.
C'est tellement le terme.
Il est vraiment dans tout ce qui peut être pauvreté énorme, des dettes, des fréquentations vraiment pas conseillables.
Ah oui.
Et quand on arrive, il est vraiment à se demander s'il peut manger juste une tranche de pain de mie pour son repas et si déjà ça va pas être enlevé. Il en est là. Et donc lui, donc Denji, il est accompagné d'un petit démon tronçonneuse, donc une adorable peluche, qui lui permet de survivre en pratiquant une activité très très peu recommandable, qui est de chasser des démons pour gagner très peu d'argent, mais bon, il peut pas faire grand chose d'autre. Voilà, donc ça c'est pour le setup.
Ça c'est effectivement c'est le setup.
Et ce qui va se passer, c'est que évidemment il va se faire trahir et assassiner par les gens qui lui donnent des contrats d'habitude. Et il va donc globalement fusionner avec Pochita. Donc ça. Moi je vais vraiment continuer à dire que c'est une peluche, parce qu'il est beaucoup trop mignon.
C'est un joli
mais
petit
voilà,
chien.
Le petit chien tronçonneuse.
Oh là là.
Ils vont donc fusionner et devenir Chainsaw Man. Et à partir de là, il va avoir accès à tout ce qu'il a rêvé, c'est-à-dire pouvoir manger deux fois par jour,
oui,
sous un toit. Et déjà, là, il est complètement refait. Voilà.
À fond, ouais, c'est le bon lancement. Et à partir de ce moment-là, en fait, ce qui va lancer l'histoire, c'est qu'il va rejoindre une grande organisation de chasseurs de démons, une vraie organisation, et il va être mis en équipe, enfin, qui est dirigée par une femme qui s'appelle Makima, dont on va parler, et qui va être mis en équipe avec deux personnes qui vont concentrer en fait plus ou moins tout notre sujet d'émission et qui vont consacrer en fait, qui vont faire le cœur du manga, à savoir Aki, qui est un peu le BG taciturne AEP qui a soif de vengeance dans l'idée, et Power, qui est un cauchemar. qui est du coup une ce qu'ils appellent un homini démon qui est en fait un humain mort possédé par un démon, et Power en l'occurrence est le démon du sang.
Voilà, ce qui s'approche le plus de la condition de Denji.
Oui, bah Denji on devient, voilà, devient complètement un. Et enfin, sauf que Denji lui garde son,
c'est ça, c'est-à-dire que l'humanité, il a gardé quand même un peu, il est en fait le pont entre l'humanité et les homini démons, qui est complètement inédit.
Et voilà. Et donc en fait le manga va surtout être mu par les.
Oh, waouh, t'as vu ça?
Par en fait la relation de ces, la cohabitation et le développement de la relation entre ces trois personnages. Exactement. Et
on parlait que
et
de voilà, ça aujourd'hui.
Donc, ça va être de ouf. Et donc ça va cristalliser exactement le cœur du manga, et Makima est un peu en pas à part.
Oui.
De toute façon, vous savez pourquoi. Mais voilà, donc en fait on va plus ou moins étudier, étudier c'est un grand mot, mais voir, analyser chaque personnage et les liens qu'il a avec les autres, et pourquoi c'est trop bien. Et voilà, en faisant des allers-retours, un dialogue, ça va être incroyable. Et on va commencer par ce bon vieux Denji.
Et oui. Donc vraiment quand on le voit au tout début, il est au fond du fond du fond. Et tout son développement, ça va être de passer de ce que j'idéalise comme ma vie préférée, donc bien manger, pouvoir dormir dans un lieu sûr et sortir avec une fille.
Toucher des seins.
Toucher des seins. Oui, mais
parce que c'est même pas sortir avec des filles. À la limite, je veux dire sortir avec quelqu'un, c'est autre chose.
Sa première question, c'est vraiment que dans son taudis, il peut pas inviter une fille.
Oui.
Et en fait, c'est donc un énorme manque affectif qu'il a, c'est pour ça qu'il. Et donc, vraiment, partir de ce principe-là, que pour lui, tout ce qui est important, c'est donc toucher des seins, manger, dormir. Et on va voir au fur et à mesure que c'est peut-être ce qu'il a envie au début, mais déjà, c'est pas ce dont il a besoin et c'est pas ce qu'il va rechercher. Et c'est ça qui est beau. C'est ça qui est intéressant dans la construction du personnage. C'est mettre face à face ce que je veux et ce dont j'ai besoin, et arriver à en tirer mieux.
Bon, en fait, c'est grandir, quoi. Enfin, c'est-à-dire, c'est. Chainsaw Man reste quand même un shonen, et le plus gros trope du shonen, peu importe son genre, c'est le passage à l'âge adulte. Et chez Denji, en fait, ça va se faire par une maturité une maturité qu'il va acquérir, en fait, il va passer dans l'espèce de stade ultra spontané, de pas savoir ce qu'il veut dans la vie exactement, mais en fait d'être sur des objectifs à très très court terme. Après, donc ils se comprennent, quand on est dans la rue, qu'on est traité, etc., de plus vouloir bouffer, et quand là dans son cas d'être dans une espèce de solitude affective totale, et de ne pas juste pas comprendre, de ne pas savoir ce que c'est les relations humaines, vouloir toucher les uns. Et en fait va passer à un personnage qui est très très passif au début, enfin c'est hyper porté.
Oui, c'est surtout qu'il accorde pas d'importance à ses choix. C'est pas forcément qu'il est passif,
oui.
Après il va. On le voit, et les chapitres et les scènes d'action sont vraiment très entraînantes, mais il est souvent pas forcément dans la provocation, mais il va.
Il est dans la réaction.
Voilà.
Il est dans la réaction à justement un personnage qui devient plus proactif tout au long. Et justement en ayant cette part d'humanité. Parce que Denji, ça reste comme la plupart des personnages de Chainsaw Man, des personnages qui, pris d'abord, ne sont pas spécialement attachants. et alors David, du coup, c'est pareil, cette espèce d'enfant capricieux, turbulent, débile, lubrique.
Il est beaucoup plus proche dans son fonctionnement de Power au début.
Ah oui,
et après, justement,
il s'approche d'Aki, et en fait, aussi la chose qui nous fait peut-être un peu nous accrocher à lui, on l'a vu, sa place de protagoniste, c'est son lien avec Pochita. Oui. On l'a vu, même le court temps qu'on voit Pochita. Quel dommage.
Après, dans des rêves.
Oui, on le revoit. Mais c'est vrai qu'en fait, on voit quand même que déjà qu'il est doué de sensibilité, enfin qu'il a un attachement, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on va voir sur tous les persos,
c'est
qui
ça.
Vont être un peu, enfin qui vont tous s'ouvrir, mais qui au début vont tous paraître antipathiques, chacun à leur manière,
oui.
Ce qui est assez étonnant.
Et c'est ça, c'est qu'ils sont tous vraiment présentés comme des personnes qui sont soit distantes pour. Pour pas se faire blesser,
ouais.
Soit parce que elle n'y trouve pas d'intérêt.
Non.
Et du coup, si on s'arrête à cette façade, effectivement, ça donne pas envie.
Ouais, de ouf. Mais en plus, c'est d'autant plus intéressant que pour Denji, en fait, vu qu'on est sur un personnage qui a pas grand but, alors qu'il s'oppose un peu à la plupart des héros de shonen auxquels on pense, sur plein de points. Alors après, de là à dire que Chainsaw Man est l'anti-Neketsu. Enfin, l'anti-shonen, je suis pas d'accord, mais sur ce point-là, en l'occurrence, oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas, de héros avec un idéal. Par contre, Denji est probablement un des personnages qui grandit de la manière la plus pertinente et crédible possible.
Mais
et
tous.
Lui, oui, tous en plus, effectivement. Ouais. Mais lui, typiquement, ça va s'apprendre, comme tous les autres, mais lui, ça va être par la recherche, en fait, de romance et ses amitiés à côté. Donc on va le voir déjà avec sa quête, sa book quest
qui achevait très vite, hein.
Qui achevait extrêmement vite parce qu'en fait il réussit à la marchande avec Power,
oui.
Qui n'en a pas grand chose à foutre, et voilà, en fait qui lui demande d'aller chercher son chat qui est détenu par le démon chauve-souris. En échange, il pourra toucher ses seins, et Denji, c'est probablement un des tournants de l'histoire. Et ce qui est incroyable, c'est que ça se passe sur cette scène là
oui.
C'est qu'en fait il va toucher des seins, mais comme je veux dire, en fait il tout, enfin en considérant Power uniquement comme un morceau de viande, et il va être déçu parce qu'en fait il aura pas créé le lien avec, enfin il aura,
et il se rend compte justement que vu qu'il va remettre ce but en cause,
oui.
Il va tout remettre en cause,
c'est
et
ça.
C'est à ce moment là que
il va
commence à exister en tant que personne, qui réfléchit
personne, en fait juste créer des liens, quoi.
C'est-à-dire
que même si Power est con et qu'on s'entend, enfin disons que ça rime à rien, ça,
oui.
Alors que lui, il idéalisait ce truc-là, comme tu disais. Et elle va être mise en parallèle très rapidement avec la scène où Makima va plus ou moins l'introduire à la sensualité, à une espèce d'érotisme, etc. Et ça va le pousser juste à vouloir créer des relations plus sincères,
ouais.
Mine de rien, et plus justes, et on va le voir tout au long. Alors même si ça reste Denji, cette progression se fait quand même sur 10 tomes, donc... mais il va notamment rencontrer Himeno, avec qui pareil, il va y avoir Himeno, pareil, personnage incroyable également, dont on va pouvoir reparler un peu plus tard, parce que c'est pas tellement avec Denji qu'elle est liée, mais pareil, en fait, avec qui il va flirter. Il va y avoir également Reze aussi, avec qui on pense d'ailleurs notamment qu'il va se mettre en couple,
oui.
En fait non. Et vraiment pas.
Non, vraiment
parce que c'est
pas.
Le démon bombe.
Voilà.
Mais enfin, en fait, c'est toujours des relations qui partent de manière crédible. Des relations amoureuses qui partent de manière assez crédible, et où on souhaite à Denji que ça réussisse. Et puis malheureusement, non.
Non, mais à chaque fois, on se dit que c'est trop beau.
Oui.
Après, ayant lu du Fujimoto avant, on sait que
oui,
c'est trop
sait.
Beau.
On sait. Mais en plus, il y a aussi tous ces moments avec Makima avec qui il part en date, où il y a des espèces de moments très très humains qui se créent. En fait, Denji va commencer à ressentir ces choses-là.
C'est ça.
Et des choses par enfin, il va commencer à ressentir des choses positives grâce aux autres,
c'est
grâce
ça.
À son ouverture
en fait,
aux autres.
Il va associer des intentions qu'il n'imaginait pas avant,
ouais.
Au comportement qu'il voyait chez les autres.
Ouais.
Il réalise pourquoi les gens ont envie de sortir avec d'autres gens, et alors qu'il a vu qu'il avait eu aucune connexion, il voyait juste le résultat. Il se disait vu qu'ils sont heureux en faisant ça, moi je veux ça.
Mm-hmm.
Et c'est en avançant qu'il va dire ils ont construit ça, donc ils sont heureux. Et pas juste ils sont heureux.
Ouais, c'est
et
ça.
C'est ça qui fonctionne.
Et c'est vrai que lui, du coup, va devenir quelqu'un de beaucoup plus altruiste, enfin va essayer de comprendre l'autre, d'agir en conséquence, et va petit à petit sortir de son aspect bah, hyper, enfin, quasi animal en vrai, enfin.
Ah oui, oui,
complètement. Et voilà. Et à côté de ça, bah, notamment l'autre énorme relation qu'il va nouer à côté, bah, de ces histoires de cœur qui sont mine de rien hyper présentes dans le manga.
Oui.
Ça va être, bah, le plus gros et le cœur de ce qui lie les personnages. Ça va être le triangle d'amitié qu'il va y avoir avec Power et Aki. Où bah évidemment au début la cohabitation est très 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 compliquée parce qu'on
c'est
est sur
si drôle.
Ouais.
C'est si drôle.
On est sur trois profils de personnages qui se marient très très mal et en plus de ça bah ils sont forcés de collaborer
et qui se trouvent tous réciproquement insupportables.
Ouais, en plus ils se haïssent tous et chacun enfin personne n'y met du sien et en fait le début de leur ouverture va se faire en fait à un moment où bah c'est Aki qui finalement va faire le premier pas entre guillemets sur leur relation entre eux en ayant marre parce que Power et Denji sont insupportables.
C'est des enfants hyper actifs.
Va leur offrir des chewing-gums, oui bah clairement, avec des super pouvoirs sanglants de ouf quoi.
Voilà.
Et va leur offrir bah, du chewing-gum. Et ça va être déjà la première ouverture.
Ouais, c'est le premier
de Aki vers Denji et Power. Après Denji et Power ont eu déjà une ouverture un peu différente avec la Book Quest.
Oui.
La fameuse Book Quest où déjà bah, en fait Denji va comprendre que Power bah, pareil derrière son comportement l'être que c'est bah, en fait est aussi doué de sentiments, enfin le fait qu'il va se rendre compte qu'au-delà de juste toucher des seins, bah, en fait il va se sentir ému par le fait bah, d'avoir récupéré son chat, d'avoir de la reconnaissance, d'avoir fait quelque chose pour elle. Et pareil, Power, du coup, bah, va s'ouvrir à Denji un petit peu là-dessus.
Et justement, c'est là que le passage du chewing-gum, c'est vraiment le moment où ils sont trois. Parce
oui,
que,
en plus. Oui, en général, c'est chacun un peu de son côté.
Quand ils sont entre ce moment-là et le moment avant où, justement, ils rentrent avec le chat, là, c'est... Cette période-là, c'est vraiment Denji et Power contre Aki, en fait.
Oui, c'est vrai. Oui, contre, exactement.
Voilà, mais vraiment. Et du coup... voir que bah, la dynamique commence à être plus ouverte en triangle vraiment, ouais. Bah, ça ouvre sur une super colocation, pas forcément, mais en tant que lecteur, elle est très agréable à suivre.
Un super triangle amical, quoi.
Voilà. Et des moments de juste où on enlève les chapitres de baston et on suit juste la tranche de vie de leur colocation dans l'appartement, c'est fantastique.
C'est incroyable.
C'est trop trop drôle.
Ah ouais. Puis en plus, Fujimoto a. Alors, s'il a a priori était assez complexé avec son dessin, et s'il est. Bah...
Déjà qu'il arrête.
Ouais. Mais après, s'il est, bah, en vrai, en toute objectivité, c'est pas du tout le meilleur dessinateur en termes de technique. Par contre, c'est sûrement un des meilleurs raconteurs d'histoire actuels. Et il sait toujours où poser sa caméra, il sait toujours comment étirer le rythme, l'accélérer, etc. Et typiquement, la manière dont il fait des respirations dans l'intrigue pour nous montrer juste des scènes de vie de ces personnages-là, bah, il y a qui est une de ses références assumées, hein, notamment dans l'uniforme des chasseurs de démons de l'organisation, donc costard cravate, très bien, qui est une référence à Pulp Fiction, enfin, et à Reservoir Dog. Mais il y a ces moments Tarantino où les personnages juste discutent de rien.
C'est ça.
Et c'est trop cool, et ça remplit des pages et des pages, et c'est super cool à suivre.
Toute sa bibliographie transpire la passion pour le cinéma, surtout dans Adieu Eri, du coup.
Oui, bah là, plus que les autres, ouais.
Mais on le sent dans sa mise en page. C'est vraiment, c'est très cinématographique.
Ah ouais, carrément. C'est en fait quelqu'un qui a vraiment aiguisé son œil et le point de vue de ce qu'on doit montrer. Et en plus, quand c'est mis au service de ces personnages-là, c'est assez monumental. Et donc, en fait, bah, leur relation, ça va pousser et finalement amener vers le message du manga, donc que tout le monde devienne un peu plus humain. Alors que Denji va se responsabiliser, avoir plus de poids, se lier aux autres et comprendre, parce que par exemple, avec Power, on n'a pas encore parlé, mais enfin, on l'a un peu annoncé, mais c'est probablement, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, c'est quasiment la meilleure, juste. Relation platonique,
ouais.
Oui,
clairement.
J'ai vu, enfin, qui a peu de choses près
façon,
en manga.
Il
n'y
a pas beaucoup de concurrence.
Il n'y a pas beaucoup d'exemples,
mais là,
ça met
très bien traité.
Ah ouais, ça met la barre absolument haut parce que.
C'est parfait.
Parce que déjà, bah, pour vouloir. Enfin, en plus, surtout que c'est fait de manière hyper, hyper naturelle parce que, en fait, Denji, même, il n'a jamais été question de se mettre en couple et de voir Power comme une copie potentielle. Lui, l'idée, c'était à la base, c'était toucher des seins. Ouais, et donc, l'objectifier, et en fait, petit à petit, à force du moment où il se rapproche, bah, il en fait, Denji capte que bah, c'est une personne, oui. Même si on dirait pas,
bravo à lui.
Sur plein de points, je pars pas du physique, mais en fait, ça va se faire vachement par petites touches, on va avoir juste plein d'attitudes sur plein de moments qui sont égrenés sur le manga, où bah, Power va être proche de lui, il va dormir, enfin ils vont dormir ensemble, il va y avoir plein de moments où ils vont faire des activités ensemble, et de manière proche, on sent vraiment une amitié hyper sincère.
C'est très familial en fait, et ce vers quoi tu veux aller, c'est le moment...
le bain.
Voilà. Et on arrive sur ce moment-là où du coup ils sont c'est un moment où Power est vraiment traumatisé,
ouais.
Et où elle se comporte comme un vrai bébé pour le coup.
Ah bah
c'est très impulsif et tout elle a tout le temps des réactions très peureuses envers tout. Et c'est vraiment à ce moment-là où ils commencent à avoir une relation vraiment de frère et sœur.
Mm-hmm.
Et ouais. Du coup, donc, avec cette scène du bain.
Ouais, bah, où Denji en fait va vraiment prendre un peu cette place de grand frère.
Ouais.
Donc, pour vous resituer, ça arrive après le passage. Alors, c'est l'arc des assassins, enfin, où il y a des assassins mondiaux qui où plein de personnages arrivent dans le manga en même temps. Ça fait beaucoup, beaucoup de choses. Alors, qui est peut-être, moi, la partie du manga que j'aime le moins, sauf la partie trauma de Power, donc qui est la confrontation avec le démon ténèbres, donc qui les amène dans un espèce de monde, enfin en enfer,
oui.
Qui est un espèce de royaume ultra oppressant, de vision surréaliste, qui a parmi les plus belles planches que Fujimoto a dessinées, hein, vous rappelez probablement de l'allée d'astronautes qui est coupée en deux, de toutes ces portes. Un peu façon Monstre et Compagnie, mais pas rigolo.
Non, bah, de toute façon, c'est les portes dans Chainsaw Man, donc
exactement,
c'est pas drôle.
Voilà, et avec le démon ténèbre, en fait, qui est légitimement effrayant.
Oui.
En fait, Power, genre juste, craque face à ça, et la suite, elle est traumatisée, elle le voit partout, enfin, c'est ça la suit, et Denji, en fait, prend ce rôle-là de réconfort. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit Denji qui va aussi loin, genre dans l'ouverture à l'autre.
Et juste fait des efforts pour quelqu'un.
Ouais, oui, c'est ça.
Il est vraiment... En fait, il prend ses décisions pour quelqu'un d'autre.
Ouais.
Tous les moments où, par exemple, quand on lui dit tu peux avoir un rendez-vous avec Makima, donc vraiment le plus du plus de ce qu'il voulait, et il hésite parce qu'il peut pas laisser Power toute seule. Donc c'est vraiment ce moment-là où il devient responsable de quelqu'un d'autre. Et c'est son pic de maturité.
Ouais. Bah ouais, c'est où en fait, pour la première fois, c'est... En fait, son action, elle est réellement entièrement motivée par un altruisme pur, et juste en fait être là pour quelqu'un d'autre qu'on aime.
C'est ça.
C'est trop beau. Enfin, la scène est incroyable. Genre un pur moment. En plus, pareil, ça fait une respiration après ce passage qui est quand même du coup hyper dense.
C'est très très dense. Donc, y a des combats partout. Il y a des gens qui meurent dans tous les sens.
Ouais, de manière bien vénère.
Et vraiment,
c'est le passage de l'enfer.
Coup sur coup sur coup. Et on arrive sur ce moment, sur l'après, où il faut gérer les traumatismes, ce qui est très peu fait. Et c'est très bien fait.
C'est tellement bien fait.
C'est maîtrisé.
Avec une scène de bain qu'ils prennent tous les deux. Et qui est incroyable.
Oui.
Et voilà, enfin c'est vrai que Power c'est quelque chose qui se met vachement plus dans le temps, alors que par contre Denji Aki, on est sur une relation qui a vraiment son pic et son vrai point de départ qui est incroyable. Alors voilà, parce que Chainsaw Man est parsemé de choses farfelues, hein, déjà la Boop Quest en est une, hein, notamment le déclencheur et le vrai premier gros rapprochement avec Aki qui se fait sur... une partie de cassage de couilles littéral du démon fou.
En fait, on sent vraiment que juste avant ça, Aki il a essayé plein de choses pour pas forcément créer une relation avec Denji parce qu'il en a pas envie, mais comme il est obligé de le garder globalement, il essaie plein de manières de le contrôler.
Ouais, de l'amadouer.
Et c'est le moment où juste il abandonne.
Ouais.
Il dit ok. On va faire à ta manière parce que... D'accord. En fait, il lâche prise.
Et ses deux enfants.
Et
c'est beau
et
parce
du coup,
que...
il retourne en enfance parce que Aki, il est quand même très peu puéril.
Ouais.
Mais avec Denji, sur ce moment-là, il se laisse aller.
Ouais.
Parce qu'après, il le redevient pas forcément.
Oui.
Mais c'est juste que pour Enfin, il abandonne en fait. Il part juste du principe que de toute façon il pourra pas atteindre Denji comme il veut. Donc il va jouer selon ses règles là.
Ouais, et puis je le trouve quand même sincère selon moi.
Oui, enfin, ah oui.
Il y a vraiment ce truc là où je pense aussi il en avait besoin. Parce
c'est
que ça arrive.
Il y a ça aussi.
Parce que c'est le démon. C'est, en fait, c'est après avoir battu le démon Katana
on qu'il fait le. Vraiment que des. Que des traversées dans l'histoire.
Ah bah oui, bah de toute façon, bah là on parle à des gens qui connaissent, hein, on fait oui. pas de manière chronologique.
Voilà. C'est vraiment pas dans l'ordre.
Mais donc le démon Katana, donc une fois qu'il est battu et qu'il retrouve sa forme humaine, qui est attaché sur un. C'est une gare, enfin c'est.
Ouais,
c'est sur des rails.
Il est attaché à un train.
Ouais, un truc d'entrepôt, ouais. Et en fait, juste où Aki et Denji, dans une espèce de moment totalement puéril, en fait, vont juste lui casser les couilles, enfin lui mettre
on
des gros kicks.
C'est parti.
Dans les testicules, à toute berzingue, quoi. Et il y a cette espèce de lâcher prise où en fait les deux, ça y est, se connectent là-dessus,
voilà.
Sur ce moment débile, mais trop bien trouvé. Et c'est à partir de ce moment-là, et je pense que de toute façon c'est le meilleur moment pour embrayer sur Aki. Là, vraiment, en fait, Aki, qui, comme tu l'as dit, est un personnage qui est toujours en contrôle, là, il le lâche, et c'est à partir de ce moment-là où son contrôle, qu'il va reprendre, va être tourné non plus vers sa quête personnelle, parce que Aki, c'est le Sasuke du groupe,
oui, vraiment.
C'est la vengeance, sauf que lui, c'est pas Itachi, c'est le démon flingue qui a buté sa famille parmi des centaines de milliers d'autres personnes, parce que on a l'échelle de mort,
c'est planche aussi,
du démon, des dégâts du démon flingue, qui est le plus fort des démons, enfin qui est le démon le plus dangereux à ce moment-là, évidemment, vu que comme tu l'as dit au début, les démons sont personnifiés par la peur qu'on a en eux, les armes à feu, voilà, autant vous dire c'est normal qu'ils soient balèzes. Et donc c'est le but de Aki, c'est de détruire le démon flingue. Voilà. Et en fait toute la vie d'Aki tourne autour de ça. Sauf que
il est complètement, du moment qu'il peut mener à bien sa vengeance, il va vraiment tout accepter.
Ouais.
Il est prêt à se sacrifier, à sacrifier n'importe qui. Il veut arriver à ce but-là et il ne conçoit pas qu'il y ait quelque chose pour lui après.
Ah non, ouais, rien d'autre ne compte.
C'est vraiment. Sa quête et il ne vit que pour ça.
Ouais. Et tout son environnement, enfin tout ce qui fait le personnage est pratique, enfin tout s'est dirigé vers ce but-là. Et déjà avec son ouverture et le début de relation qu'il noue avec Denji Power, déjà ça se détourne un peu, mais c'est vraiment à ce moment-là que en fait il va commencer à comprendre que alors sa vengeance c'est une chose, mais en fait il existe, il est pas seul là, et il va commencer à capter que qu'il est déjà, il l'apprécie. Enfin, mine de rien, en fait, maintenant qu'il a créé ces connexions-là, il ressent quelque chose et ces personnes lui font du bien.
On le voit au moment où il veut les éloigner de la mission.
Oui, en plus. Ouais, en fait, il veut qu'ils survivent. Enfin, ça devienne presque son but.
Lui, il a accepté le fait de mourir, égal. Mais il veut pas que
les autres meurent.
Son entourage meurt.
Et ça, c'est quelque chose qui est assez fort chez lui, parce que jusque-là, ça restait quand même ce personnage froid, mais on avait déjà eu un petit indice sur le fait que Aki n'était pas que cette espèce de mur de ténèbres que l'âme de Aki n'était pas si noire que ça, et parce que justement avec le personnage d'Himeno, où en fait Aki, l'une de ses caractéristiques de chara-design, c'est sa clope. Aki est un des rares personnages fumeurs d'ailleurs. Enfin,
il y a pas leur
j'ai un trou sur son nom, le mec qui entraîne pour Denji, il y a lui aussi.
Il boit surtout.
Ouais. Il fume pas ?
Je crois pas.
Enfin bon, disons que c'est les seuls personnages qui sont vraiment caractérisés par la cigarette. Enfin,
au pire,
le
aura tort et puis c'est pas grave.
Oui, voilà, commentez. Et voilà, enfin, c'est vraiment un truc qui définit un peu dans l'attitude de Aki et Himeno, pareil.
Ouais.
En fait, Himeno, pour faire bref, parce que ce personnage, on va pas trop en parler, mais il est hyper intéressant le temps qu'il est là. C'est que Himeno, c'est une vétéran de l'agence, donc qui est une personne. Et en fait, elle, son trait sentimental, un peu comme on a pu relier avec tous les autres, elle, c'est la perte de ses coéquipiers. Elle vit avec la culpabilité et la tristesse d'enchaîner les coéquipiers qui ne survivent pas à ses missions.
Oui, parce que qui dit être vétéran, surtout dans ce monde-là où globalement ta durée de vie est de 1 an, là, elle, vraiment, elle a vu... Un nombre trop grand de personnes mourir.
Et donc en fait, Himeno se sent seul, comme tous les personnages dont on parle, qui se sentent seuls d'une manière différente. Et elle, en fait, va nouer son lien avec Aki, notamment en lui faisant la promesse de ne pas mourir. Malheureusement... Et lui demande également en fait de se mettre à fumer, ce qui est idiot en soi.
Oui.
Mais en fait parce que elle veut quelqu'un avec qui fumer, avec qui partager ça. Et en fait à ce moment-là on comprend que Aki s'était déjà ouvert à quelqu'un, a déjà éprouvé ce genre de choses. Parce qu'en fait ce trait-là qu'on attribue à Aki ne vient pas de lui. En fait Aki il a déjà reçu ça de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui lui a légué quelque chose. En fait Aki veut reproduire un peu cette chose-là avec Denji, avec Power, justement en les protégeant plus ou moins en reportant la promesse qu'il a fait à Himino sur les autres de moi je tant pis si je meurs pour le coup, mais par contre je ne veux pas que eux meurent.
Ouais.
Voilà. Et je ne veux pas que du coup quasiment mes assistants meurent pour porter ça.
Ce qui fait du coup.
Ouais, ce qui fait en partie.
Voilà, donc là on va entrer en zone sanglot.
On va encore un peu parce qu'il y a Power et après on va vraiment
allez, si tu veux.
Parler du voilà. Enfin c'est vrai qu'Aki là il y a beaucoup moins de choses à dire dessus parce qu'il y a enfin c'est un personnage qui est beaucoup plus simple entre guillemets dans les choses qu'on voit parce que pour le coup c'est juste quelqu'un qui est dans le contrôle constant,
oui,
qui ne montre pas ses émotions.
Moins, il est moins central que ouais. Power.
Oui, bah, c'est clair. Et voilà, non, bah Aki aussi une des choses qui est brillante par contre c'est justement tous les moments où le contrôle sur ses émissions craque, notamment genre cet enchaînement de 3 pages où il essaie de s'allumer une clope, il n'y arrive pas, il fond en larmes, qui est magnifique, encore une fois, Fujimoto best gars. On a ce genre de choses, enfin Aki, bon, on va revenir après sur la fin de sa quête qui est. Pas si heureuse que ça.
Non.
Voilà, mais on va enchaîner avec Power pour finir le trio avant d'arriver à Makima et pour que tout se rejoigne.
Ouh.
Que ce soit merveilleux. Donc,
ça va être merveilleux, oui.
Oui. Et donc, Power. Donc, Power, bon, on a déjà un peu.
Ouais, on a quand même pas mal balayé.
Un peu déblayé, mais genre, Power, effectivement, est un. Quand on la rencontre, c'est vraiment un démon. Sans ce premier terme, c'est un putain de gobelin.
C'est ça. C'est-à-dire que les moindres. Les moments où on se dit qu'elle est pas forcément que maléfique, c'est de la manipulation.
Ouais, c'est.
Du coup, elle est maléfique.
C'est-à-dire que dans l'interview que Fujimoto avait accordé à Atom, si vous ne devez lire qu'un magazine manga, lisez Atom, s'il vous plaît, et où il a dit que son inspiration principale pour Power était Cartman de South Park. Et c'est ça, sauf que c'est ça dans un corps de jolie adolescente démoniaque terrible. Mais en fait, Power, on pourrait vraiment compiler au début du manga à peu près tous ces traits psychopathes et sociopathiques. Genre, elle est raciste, elle ment pour gagner des débats, elle a une hygiène horrible.
Elle continue de mentir tout le temps, de toute façon.
Oui, elle ment tout le temps, mais elle a une hygiène horrible, elle est manipulatrice, elle n'assume pas ses responsabilités. C'est un package total. Aussi étant un démon également, elle adore la souffrance, elle veut taxer à je sais plus combien de pourcents les êtres humains en devenant présidente pour juste que l'humanité souffre. Enfin, c'est terrible, mais après elle est extrêmement drôle pour eux. Et donc c'est ce personnage là qui est littéralement un démon, qui elle pareil va grandir également, comme tous les autres, donc déjà avec son premier lien autour de son. Du démon chauve-souris tout
ça
début.
C'est vraiment le
lancement
c'est vraiment son lancement
mais qui elle pour le coup en fait c'est à la base c'est sa quête elle a perdu son chat qui était à la base pensé comme étant une ration de survie qui finalement est devenue la seule personne à qui elle s'est attachée qu'on lui a enlevé et qui en fait a demandé à Denji de le récupérer. En fait le développement de Power aurait pu s'arrêter là quasiment, sauf que non, c'était le début. Et oui, parce qu'après c'est ça qui lance la relation, l'amitié très très forte qu'elle a avec Denji. Et aussi, c'est à partir de ce moment-là, mais elle a moins de relations avec Aki direct.
Oui.
Et
c'est vraiment toujours par l'intermédiaire de Denji.
Ouais, de Denji, ouais.
Elle est toujours collée à lui, souvent derrière, pour pas avoir trop d'interactions, je pense.
Ouais, peut-être aussi. Bah, peut-être aussi parce que tout simplement, les personnalités sont encore plus éloignées. Enfin, c'est-à-dire que Denji est quand même un peu plus médium maintenant.
Ouais.
Dans ça, mais ouais, Power qui reste quand même mine de rien pendant la majorité du manga un personnage qui est assez égoïste, assez auto-centré, même je veux dire dans sa relation avec Denji, c'est-à-dire elle reste quelqu'un qui pense avant tout à elle-même et qui en fait va se développer jusqu'à la fin quasiment, qui va annoncer son vrai développement, mais malheureusement elle n'aura pas le temps d'en profiter.
Non, pas vraiment.
Parce qu'il est temps. Il est temps de parler des larmes. Voilà, avec Makima. Donc Makima qui en fait déjà est un personnage hyper à part dans le manga, en termes de personnalité. Parce que bon, au-delà de d'être une espèce d'entité mystérieuse, cruelle, etc. et j'en passe. Enfin, c'est surtout un personnage qui est légitimement très rapidement effrayant.
Mais parce qu'elle est crainte par tout le monde.
Ouais.
Ce qui déjà aide.
Oui.
C'est-à-dire que tous les personnages qu'on rencontre ont au moins peur d'elle. Des fois, ils ont peur et ils sont aussi excités. Mais tout le monde a peur de Makima. Et au début, on ne sait pas pourquoi.
Non. Et en fait, on se rend vite compte, à force de voir les failles chez les autres persos, qu'elle, en fait, n'en a aucune. Elle a jamais cette once d'humanité, à part peut-être au moment du cinéma, mais c'est peut-être de la manipulation également, où elle en pleure. Et en fait, qui va mettre plus ou moins un terme aux quêtes des trois personnages. Les trois personnages, parce que Makima, vous le savez si vous avez lu le manga, et l'animé peut-être, je sais plus.
Ouais, ça pour le coup.
Et,
je ne sais pas.
Je me rappelle pas. Et donc, c'est le démon Control, qui fait partie des plus puissants démons, qui veut s'accaparer le démon tronçonneuse. Pour servir le démon flingue, je sais plus.
Non, c'est parce que le démon tronçonneuse.
Ah oui, il peut effacer les gens de la réalité, c'est ça. Et voilà, et en fait, son but pour. Enfin, sa manière de réussir à acquérir ça, ça va être de créer, en fait, d'être la source de ce développement-là de Denji. C'est-à-dire, en fait, elle va plus ou moins indirectement tout lui donner et tout lui reprendre. Et c'est terrible.
Oui,
c'est terrible affreux. En termes d'émotion. Parce que mine de rien, enfin, Fire Punch est quand même un manga qui jusqu'à la fin est hyper sombre et hyper nihiliste. Par contre, Chainsaw Man, mine de rien, même si il est terrible, ça reste quand même quelque chose d'hyper positif sur plein d'aspects et de plein d'espoir.
J'ai moins souffert en lisant Fire Punch.
Bah oui, parce que Fire Punch, on s'attache moins.
Oui, et puis même c'est moins.
C'est moins fort.
C'est moins fort.
Oui.
Vraiment.
Parce que du coup, Power, entre autres. Pour être la première. Pour être la première abordée, du coup, parce que si on retire tout à Denji, c'est lui retirer les relations qu'il a nouées.
Oui.
Et donc lui retirer à qui est Power. Et Power est probablement le pire de ces cas-là.
C'est-à-dire que c'est vraiment le plus violent pour Denji. Déjà, à qui c'est dur, hein.
Ouais.
Mais à qui c'est aussi dur. C'est surtout dur pour lui parce que on voit vraiment qu'il est complètement dans ce qu'il voulait éviter.
Mmh.
Alors que Power, elle est victime, mais elle est pas.
C'est si inattendu.
C'est flanche, mais.
C'est si inattendu.
Mais voilà, c'est moins dur pour elle. Si, elle est morte, mais.
Oui, ça va.
C'est moins joué avec elle.
Oui.
Alors que Aki, vraiment, on va prendre tout ce qu'il veut, le retourner et lui donner.
Parce que du coup, pour le petit reminder, Aki, c'est que il veut tuer le démon flingue, il le combat, sauf qu'il meurt de son affrontement, il est possédé par le démon flingue, et donc en fait, il est forcé, enfin, il vient sonner chez Denji avec cette.
Du coup, Denji est obligé de le tuer.
Et est obligé de le tuer, voilà. Qui est terrible. Qui est terrible.
Et voilà, c'est vraiment retourner tout ce qu'il voulait et lui donner tout l'opposé.
C'est ça.
Donc. C'est absolument tragique,
ouais.
Alors que Power, on est déjà sur une période où c'est le deuil d'Aki, et où Denji est vraiment le plus faible, et c'est vraiment le dernier coup
pour le briser totalement. Parce qu'en fait, Denji effectivement a appris à ressentir des choses positives avec les gens, mais avec la mort d'Aki, dont il est l'auteur, en fait, apprend le deuil et apprend toutes les choses terribles qu'on peut ressentir. Quand on est attaché à des gens, et donc il passe par une phase hyper compliquée. C'est à ce moment-là que réapparaît Makima pour l'inviter chez lui, pour l'inviter chez elle. On sait à peu près que c'est malveillant à ce moment-là.
On sait.
Et d'ailleurs, ce qui nous met la puce à l'oreille avec tous les chiens qu'elle a chez elle, le motif du chien qui est sur tout le manga comme celui de la porte.
Oui.
D'ailleurs, avec les rêves de Denji qui est terrifié par l'ouverture d'une porte. Et on sait pourquoi, porte Aki, donc la surprise de Aki possédé, sachant qu'on n'a pas vu nous l'issue du combat à ce moment-là, et donc on s'y attend pas et on est aussi surpris que lui. Et là, du coup, Makima et Denji sont dans l'appartement de Makima, on entend le ding-dong, le terrible ding-dong, on sait que ça va pas être cool.
Oui, surtout que Makima, à ce moment-là, assume complètement.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'elle lui dit je l'ai fait venir et elle va mourir.
Ouais.
Ah.
Et là, s'ensuit peut-être une des ironies dramatiques les plus cruelles. Parce que bon, l'ironie dramatique, c'est quand le lecteur sait quelque chose que les personnages ne savent pas, enfin, au moins le protagoniste. Et là, en l'occurrence, en plus, qui est manié avec une technique de western spaghetti de étirer l'attention.
Ah ouais, là...
On a 10 pages pour d'aller d'un salon, d'un petit appartement jusqu'à la porte d'entrée.
On la voit du salon, la porte. Hein,
voilà, c'est ça.
Il y a 5 mètres.
Ouais, c'est ça. C'est un 15 mètres carrés, l'appartement. Et ça dure 10 pages.
Ouais.
Et on sait que l'issue va être tragique.
Mais
et on a...
Denji le sait aussi.
Ouais.
Parce que elle le force à ouvrir la porte. Et lui, il sait ce qui va se passer.
Oui.
Et nous aussi, on sait. Mais
nous, on le sait dès le ding-dong.
Oui.
Et on le sait, bah, là, du coup, Power, qui, dans son premier acte d'altruisme total,
oui.
En plus, qui est trop mignon,
c'est adorable.
C'est l'anniversaire de Denji, elle lui a fait un gâteau d'anniversaire.
Il devait être dégueulasse en plus.
Ouais, probablement. Mais bon, c'était fait par Power.
Oui.
Et qui se fait juste descendre sans sommation.
Oui,
c'est terrible.
C'est horrible.
Et en fait, dans le but. Parce que Makima en soi, c'est pas un personnage si intéressant que ça. Elle est surtout intéressante par rapport à l'histoire.
Bah c'est ce qu'elle apporte à l'histoire.
Bah c'est ça.
Plutôt. Enfin, parce qu'il n'y a pas vraiment de personnage. C'est...
Non. Non, c'est une entité,
c'est
concept, ça. Makima. Et là, en fait, c'est là où le manga en plus est particulièrement intéressant. C'est qu'on suit des personnages qui grandissent et on suit le parcours de Denji qui grandit, qui devient adulte. Et jusqu'à en fait l'amener vraiment au plus profond. Au point où Denji en fait s'en. Son moral est tellement en vrac et tellement en pièces qu'il demande à Makima, donc avec cette formulation, Makima lui avait promis un vœu, là il lui demande de devenir son chien. En fait, il redemande à devenir comme on le voit dans le premier tome.
Il abandonne.
C'est ça, ouais, il abandonne.
Il abandonne complètement, mais il abandonne
acquis,
son libre arbitre, ouais. Il abandonne tout parce que c'est trop.
Ouais, c'est ça, en fait, il peut pas supporter plus que ça. Et c'est terrible à voir, c'est tellement triste.
Oui.
Surtout
que c'est vraiment succédé, c'est-à-dire que bon, déjà on voit Power mourir et donc on est très triste. Et après, trois pages après, on voit Denji qui abandonne complètement et du coup qui renie pas forcément, mais qui.
Si on soit, enfin ouais, il rejette au final toute son évolution
et
son vécu.
Et c'est d'autant plus dur en tant que lecteur de se dire t'es arrivé si loin et.
Ah ouais.
Alors, il est dans un vrac pas possible mental.
Ouais.
Donc. On le comprend évidemment en tant que, ce moment-là, et de toute façon, on sait qu'il se reprend après, donc tant mieux.
Ouais.
Mais c'est vraiment coup sur coup, c'est très très dur d'accepter ce passage-là.
Puis vu que Fujimoto, c'est aussi un excellent montreur d'émotions et de relations. Enfin, il a au final une mise en page et une manière d'écrire en fait hyper sensible sur plein de choses. Et là, c'est tellement dur. Et en fait, c'est peut-être là que tient une partie du message de Chainsaw Man. Et là, parce qu'on va arriver à la conclusion. De toute façon, on a quand même fait des amas de superlatifs dans tous les sens là-dessus. Mais c'est que, en fait, c'est vraiment genre une quête d'humanité, mais dans la relation avec l'autre. Et donc, c'est autant se développer et accepter tous les bons côtés qu'il y a, mais aussi surmonter tout ce qui est négatif, donc les pertes, les éloignements. En fait, ça fait partie de la vie et d'être humain, quoi. Et notamment, en plus, dans ce qu'incarne Makima, c'est l'espèce de petite dicton, enfin, ou de petite histoire qu'il y a dans le manga, donc avec la souris de la ville et la souris des champs. Donc, qu'est-ce qu'on préfère ? Est-ce qu'on préfère la monotonie ou l'excitation
mais dangereuse.
C'est ça. Et en fait, c'est clairement là-dessus. Alors du coup, jusque-là, Denji était dans l'excitation dangereuse, dans le sens où...
Parce qu'il avait pas d'attache.
Non, c'est ça. Et là, en fait, il finit par se résigner sur la monotonie. Et c'est terrible, en fait.
Et en fait, non.
Parce qu'il poutre Makima et c'est formidable. Donc en fait, Chainsaw Man, mine de rien, d'ailleurs, ses aspects hyper absurdes, hyper Fujimoto, hyper décalés et tout... Et mine de rien, quasiment un manga de Inyo Asano.
Mais vraiment, on enlève les scènes de baston et c'est juste une tranche de vie folle.
Ouais, incroyable. Et en fait, c'est peut-être ça sa plus grande qualité, au-delà d'être juste un très très bon shonen de base. Mais en fait, il réussit vraiment à toucher l'essence du shonen par l'apprentissage qu'il fait.
Ouais.
Là, on est vraiment sur un apprentissage humain. et grandir, c'est, être adulte.
Il part de l'animal, vraiment, et il arrive à l'humain.
C'est,
par contre,
c'est
tu ne peux pas me mettre ce duo comme ça en tête, parce que maintenant je veux quelque chose de Fujimoto et Asano.
Désolé.
C'est vraiment pas sympa.
Désolé. Et donc on va enchaîner là. On va enchaîner sur la fin de l'émission. Voilà, donc c'était une manière, enfin notre manière de célébrer Chainsaw Man,
oui,
par ce
biais-là.
On reviendra pour la partie 2 quand elle sera terminée.
Bien sûr.
Et voilà, Chainsaw Man, c'est bien. Lisez Chainsaw Man, regardez Chainsaw Man, parce que l'animé est complètement caviar,
je te crois.
Et on va enchaîner sur la dernière partie. Il va être bientôt le temps de se quitter. Mais là avec le dernier interlude, hein, parce qu'on a le moral un peu dans les chaussettes avec tous ces événements tristes.
On va pleurer dans un coin.
Voilà, donc on va se passer l'ending 3, celui un peu énervax. Voilà, et on revient.
Et on est de retour pour la dernière partie toute courte de notre émission. C'est parti. Avez-vous déjà lu
Devilman de Go Nagai?
Oui.
Sorti en 72.
Fais ça jusqu'à la fin.
Non. Voilà, donc bah, c'était l'occasion hein, de parler de possession démoniaque et de grosses bagarres et de sang. On va parler de Devilman, qui est probablement une inspiration
oui.
au moins lointaine.
Du moment qu'il y a une possession démoniaque, je pars du principe qu'il y a une inspiration Devilman.
Ouais, et des combats urbains.
Oui, aussi.
Donc voilà, donc, vu que c'est une reco de moi, c'est une reco qui a au moins 50 ans.
Mais vous avez peut-être vu
ouais.
l'animé.
L'animé Devilman Crybaby, enfin le second animé,
oui.
parce que le premier ne le voyait pas.
Non.
Mais la réactualisation de Devilman Crybaby sur
Netflix,
qui est exceptionnelle. Et alors, Devilman, je vais pas trop m'attarder sur le scénar, parce que déjà c'est court, donc autant pas trop spoiler, mais on est en gros sur un gamin, un ado qui est un peu timide, qui a un meilleur ami beaucoup moins timide, qui va lui mettre un démon dedans, et bagarre.
Voilà.
Ça va plus ou moins être ça, et après bon, son meilleur ami va se révéler être l'antagoniste, et ça va faire des grosses bagarres. C'est basiquement ça. Sur le plot, voilà, en partie. Et en fait, Devilman, là où il est surtout conseillable, c'est que déjà, au-delà de ce résumé hyper rapide, mais en même temps, on est sur un avez-vous déjà lu, c'est que en fait, c'est une œuvre mine de rien hyper avant-gardiste pour son époque, comme Go Nagai a un peu fait à cette période. Hein. Go Nagai, on est quand même sur un des bonhommes les plus importants juste pour le manga tout court. Donc, inventeur de Goldorak, inventeur du hentai, basiquement. Inventeur pratiquement un des premiers à faire du seinen fantastique gore avec Devilman. Voilà, on est sur Tonton en partie, et ça c'est juste quelques bribes de ses énormes apports au manga.
Il y a vraiment plein de choses.
Voilà, et un auteur toujours en vie, et notamment aussi par exemple qui est, parmi les autres choses, qui a créé un des premiers rassemblements de super-héros de tous les temps avant l'Avengers avec les Dynamic Heroes. Et voilà, enfin c'est le Go Nagaiverse existe. Enfin c'est assez exceptionnel, mais Devilman là où il est important, c'est effectivement son caractère angulaire. En fait, lire Devilman, c'est comprendre toute une partie des œuvres seinen de manière générale. et shonen, par exemple Devilman, avec Chainsaw Man en l'occurrence, qui même en vrai le titre peut être une référence, hein, en vrai Chainsaw Man, Devilman, il y a ce truc là, sachant que les démons dans Devilman ont aussi des caractéristiques propres, etc. et des trucs bien, bien barrés. Également, mais en fait, Devilman c'est une œuvre qui est beaucoup moins bête que ce à quoi elle peut paraître, enfin beaucoup moins bourrin, on est quand même sur quelque chose qui parle d'écologie, de tolérance, de libération sexuelle également, dans du magazine jeunesse
à cette période-là, voilà, au Japon.
Voilà, donc les gars, donc le Gekiga était déjà passé, hein, mais là on est sur de l'œuvre jeunesse. Et à ce moment-là, et un peu comme tout ce qu'il a fait d'important.
Et on aurait pu parler de Z-Man aussi.
On aurait pu parler de Z-Man, ouais, pour une prochaine fois.
Un autre man.
De ouf. Bah Z-Man qui est probablement aussi, hein, voilà, inspiré de Devilman.
En fait, c'est l'entre. Il y a eu Devilman, il y a eu Z-Man, et maintenant on a Chainsaw Man.
Exactement, c'est beau.
Voilà.
Bah même cette Z-Man d'ailleurs qui va jusqu'à la référence sur l'apparence de Z-Man.
Oui, là pour le coup, c'est pas caché.
Et Devilman, ouais, en fait, va aborder des thématiques ultra sérieuses et rarement vues de cette manière-là. Parce que bon, Devilman reste hyper violent, bien gore et tout. Et un de ses plus grands. Une des personnes qui s'en inspirait aussi, c'est peut-être là l'argument massu, l'argument d'autorité, c'est que tu as parlé de Berserk.
Et oui.
Effectivement, Kentaro Miura s'est en effet inspiré grandement de Devilman. C'est pas la seule influence qu'il a utilisée pour Berserk en manga, mais beaucoup de choses, la dynamique des deux personnages principaux, le côté gore également peut venir en partie de là. Et aussi, bah, dans Devilman se trouve la scène qui est en partie inspirée l'éclipse. Donc voilà, donc, si vous avez lu Berserk...
La mention n'était pas innocente.
Toi-même, tu sais. Voilà. Alors évidemment, ça n'atteint pas l'éclipse en termes de trucs, mais pareil, en 72, au Japon, voilà, quelque chose qui a lancé ça, c'est-à-dire on est quand même sur un déferlement de violence assez inouï. Et pareil, qui est pas bête, qui est pas gratuit du tout, et qui est terrible.
Et c'est comme ça qu'on aime notre violence.
Ah ouais, pas bête. Pas bête, comme Devilman. De la violence intelligente, de la violence avec des lunettes, les gars.
Voilà.
Et voilà, enfin donc Devilman, c'est un classique du manga, donc déjà, rien que pour ça, il est à lire, et en plus, il est dispo chez Black Box, Sanctum, et Black Box, c'est quali, on aime, du papier bien blanc, très très bonne qualité, et un catalogue assez ouf. Enfin voilà, beaucoup de Gonagai chez eux, beaucoup de Gonagai chez Issan Manga. Voilà, donc je vais rester là-dessus. En fait, voilà, lire Devilman et lire Gonagai, c'est mieux comprendre le manga avec de bonnes œuvres qui sont datées.
C'est ça qui est
datées.
Intéressant quand on lit vraiment des œuvres pionnières.
Ah ouais, ouais, c'est de remonter le fil de l'inspiration.
C'est pour ça qu'on avait parlé de La Rose de Versailles et de
d'Agitano Joe, carrément.
C'est dans cette veine-là.
Ouais, et voilà. Donc rien que ça, ça suffit.
Enfin,
lisez, voilà, donc forcément une œuvre, dernière chose, une œuvre qui a vieilli. Hein. Là, c'est une œuvre très dans son contexte, hein, qui tient pas forcément, je veux dire, la dragée haute à beaucoup de choses qui sont sorties après, beaucoup de choses qui s'en sont inspirées. Berserk et Chainsaw Man, entre autres,
voilà.
Par exemple, hein, on n'est pas sur ce niveau qualité. Non. Mais c'est super cool encore, et voilà, enfin, si vous aimez en plus votre horreur fantastique avec une touche un peu vintage et un charme à l'ancienne, là vous allez vous régaler. Et il va être temps de se dire au revoir.
Ben, au revoir.
Salut. Ah ouais, d'accord. Pour la prochaine émission, donc on va rester là, émission spéciale.
Ouais,
prochaine,
ouais,
là, on va terminer la saison sur deux spéciales.
Oui.
Et la prochaine, en fait, bon, c'était dit que ce serait cool d'aborder, pareil, encore un manga que vous connaissez probablement.
Oui. Oui.
J'espère au moins deux noms. Donc Jojo Bizarre Aventure. Et sauf que pareil, Jojo, c'est on pourrait faire des saisons entières dessus.
Non.
Et
on va pas le faire.
C'est ultra riche, c'est hyper long. Enfin, vous savez. Et on s'est dit que peut-être une des manières de l'aborder un peu dans sa globalité de manière facile, ce serait sous forme d'un top.
Voilà. Pour aussi que ça soit très ludique.
Ouais, voilà. Donc
comme ça, on va s'amuser, vous allez rager, et ça va être très très
ouais,
drôle.
Ouais, donc voilà, une tier list de. Enfin, notre tier list en
exactement.
Fait des différents arcs, donc des 8 parties. Parce que des 8 parties sorties en France, parce que Jojo Land vient de commencer.
Et justement, c'est pour. C'est le timing qu'on choisit.
C'est ça, exactement. Voilà, donc, donc le mois prochain, c'est Jojo Land. C'est. Le mois prochain, c'est Jojo Bizarre Aventure. Et on va se régaler. Petit top.
Voilà.
Et à la prochaine.
Matane.